Bien, bonjour.
Donc, vu qu'on est en petit comité, que tout le monde est proche et tout ça, on a le droit d'interrompre l'orateur pour la présentation, de poser des questions et tout ça. Ça n'a moins de solennité que les réunions de l'European Operator Forum au RIP, c'est sûr. Donc, ça va faciliter un dialogue plus interactif. Donc, ce dont je voudrais parler, c'est du déploiement du PV6 dans le réseau de l'opérateur citoyen. Non pas qu'on ait fait quelque chose de remarquable ou d'extraordinaire, mais simplement parce que c'est une expérience concrète de déploiement. Et vous savez que tout le monde cause d'IPv6. À Ourtin, la ministre de la Recherche et des Nouvelles Technologies a expliqué que c'était une invention française, que le monde nous enviait, qu'il fallait faire de l'IPv6 partout. Et tout le monde n'en fait pas forcément. Je crois que dès qu'on le fait pour de bon, on découvre des choses qui peuvent être intéressantes et utiles. D'abord, ça ne serait pas complet sans une petite présentation de ce qu'est Gitoyen et de ce qu'on fait. Donc, Gitoyen, c'est un petit opérateur réseau, tellement petit qu'on a même du mal à avoir un portable plus rapide que ça. Donc, c'est un tout petit opérateur réseau. Ça joue un rôle, parce qu'évidemment, c'est plus facile de déployer une technologie complètement nouvelle sur un petit opérateur réseau que chez WorldCom ou chez... ou même chez Open Transit. C'est un petit opérateur réseau qui est surtout centré donc sur le secteur non marchand. C'est un consortium de 5 organisations, Classnet, Gandhi, NetActive, GlobeNet et FDN. Donc Gitoyen ne vend pas en direct, même si ses membres ont des activités parfois plus ou moins commerciales. Bon, vous savez que Gandhi vend des noms de domaine par exemple, NetActive fait de l'hébergement de sites web, ce genre de choses. En gros, l'accent général est plutôt sur le secteur non marchand, donc les collectivités locales, les associations, les partis politiques, les syndicats. Parmi, par exemple, le gros trafic sur les machines de Gitoyen, c'est le serveur web d'attaque, le serveur web international et le serveur d'attaque France, celui de l'Humanité, qui est le seul quotidien français intégralement en ligne gratuitement tous les jours. C'est ce genre de trafic. Gandhi, c'est une grosse activité financière, ça fait moins de trafic. Il y a juste le serveur web pour enregistrer une ligne de mail et un petit peu de trafic DNS après. Pourquoi est-ce qu'on a voulu faire de l'IPv6 alors? Quelle était la motivation? Qu'est-ce qui nous branchait? Ça m'étonnerait que vous arriviez à lire quoi que ce soit. C'est un peu ce que je pensais. Donc désolé, je n'avais pas prévu un mur, un écran de projection comme ça. Mais c'est pas grave, ceux que ça intéresse, je leur envoie une copie des transparents. Je vous dis tout de suite, il n'y a pas d'information essentielle dessus. Elles sont mises en ligne en plus, donc c'est super. Donc pourquoi IPv6? C'est très amusant de constater que dans le monde IPv6, on discute très souvent de il faut passer IPv6, c'est important, ou bien on va bientôt parler d'un retard français de IPv6, pourquoi pas. Et on oublie toujours de dire pourquoi. Par exemple, la ministre, dans son discours à Ourtin, a expliqué qu'il fallait passer à IPv6, c'est un enjeu majeur, etc. Elle est incapable de citer une seule raison, à part une raison certes primordiale, qu'il fallait pouvoir connecter les frigos à Internet et qu'on n'avait pas assez d'adresses IPv4 pour ça. Ce genre de choses ne va pas motiver pour passer à IPv6, parce que IPv6, dès qu'on veut le déployer, ça nécessite un certain travail, un certain investissement, et qu'il faut pouvoir justifier que l'on soit strictement une entreprise privée dans une logique capitaliste, ou qu'on soit un groupe de copains qui font mumuse, dans tous les cas, ça fait du travail, et dans tous les cas, il faut pouvoir justifier ce travail. Donc quelles étaient les motivations, particulièrement au contexte de Gitoyen? D'abord, il n'y a pas de raison commerciale. Pourquoi il n'y a pas de raison commerciale? Parce qu'il n'y a pas de demande. Je ne connais pas d'opérateur réseau qui soit harcelé par des clients qui disent « Vous n'avez pas encore IPv6, c'est un scandale, dépêchez-vous. » Bon, j'ai vu passer sur des listes de diffusion, comme celle du groupe de travail IPv6 du RIP, des gens prétendant que quand ils allaient voir un fournisseur de transit, ils posaient comme condition qu'il y ait un transit IPv6 possible et qu'ils étaient capables de changer de fournisseur juste pour ça. J'ai du mal à y croire quand même, ça paraît quand même assez difficile vu la demande qu'on a actuellement de la part des utilisateurs finaux pour faire de l'IPv6. Donc pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une pression commerciale très forte. Je ne dure pas pour le futur, mais pour l'instant, en tout cas, IPv6, la pression ne vient pas des utilisateurs. IPv6, alors il y a une autre raison qu'on n'ose pas dire, mais c'est techniquement amusant. C'est vrai que pour des ingénieurs qui en ont marre du train-train quotidien, des réseaux qui marchent, IPv6 représente un défi, quelque chose de nouveau, des nouvelles techniques à apprendre, l'occasion de se rafraîchir la tête et tout ça, ce qui peut être une motivation. Bon, évidemment, on ne peut pas aller voir le PDG avec cet argument-là, mais c'est quand même une motivation qui peut compter. Cela dit, puisqu'on parle de la technique, il faut rappeler que le déploiement d'IPv6 se heurtent souvent au problème que la plupart du temps les technologies IPv6 ne sont pas au même niveau que pour V4. C'est-à-dire qu'il y a des tas de choses qui tournent sur IPv6 et des tas de choses qui ne tournent pas. Il est très, une fonction donnée d'un logiciel donné, quand elle existe sur V4, souvent n'existe pas sur V6. L'inverse n'est jamais vrai. Il est très rare qu'on ait des trucs qui ne marchent que en V6. Et souvent, ça marche, mais à moitié. Il y a souvent une propagande de la part des tenants d'IPv6 qui gomme discrètement certains inconvénients. Par exemple, pour des coups de feu, pour les routeurs filtrants, on explique que sur Linux, mais si le netfilter, le système de filtrage des noyaux, fonctionne en V6, il n'y a pas de problème. Et on oublie soigneusement de dire qu'il y a beaucoup moins de fonctions en V6 qu'en V4. Notamment en V4, il peut être avec état ou sans état. En V6, il est forcément sans état. Donc des choses comme ça, ça refroidit quand même un peu quand on l'apprend. On ne passe pas son réseau en IPv6 juste pour faire des nouvelles choses. Actuellement, malgré les promesses sur la sécurité, la qualité de service, etc., actuellement, pour l'instant, c'est le contraire. On peut faire moins de choses en V6 qu'en V4. Par contre, la motivation qui, moi, me semble la plus convaincante, c'est que c'est politiquement important. Qu'est-ce que ça veut dire politiquement important pour un opérateur? C'est que un certain nombre de services qui ne sont pas forcément rentables du point de vue commercial, mais qui sont importants pour nous, sont plus faciles ou plus même possibles uniquement en IPv6. Deux exemples. La pénurie d'adresses, qui est une raison qui est toujours citée pour passer à IPv6, ne touche pas du tout les États-Unis, puisqu'ils ont été les premiers à se servir. Ils ont piqué Ford, par exemple, à un slash 8, qui n'est même pas annoncé en BGP, mais un slash 8, pas privé, hein, pas le réseau 10. Un slash 8 à eux qui gardent sur lequel ils sont endormis et qui n'est même pas annoncé en BGP. C'est-à-dire qu'ils n'ont même pas une seule machine dans ces adresses-là. Donc la pénurie d'adresses ne frappe pas tout le monde de la même façon. Elle frappe en priorité ceux qui ont été les derniers à se connecter à Internet, les pays d'Afrique et dans une certaine mesure ceux d'Asie ou d'Amérique latine. Il faut savoir par exemple qu'en Afrique, pour une université, quand on arrive à avoir un slash 29, on est déjà content. Si on arrive à avoir un slash 28, c'est qu'on est drôlement bien magouillé. C'est pour ce genre de gens que l'IPv6 représente un enjeu important. Un manque de bug, c'est ceux qui ne sont pas solvables et qui n'ont pas de pouvoir de décision au niveau international. Mais c'est surtout pour eux que c'est important parce que, justement, c'est eux qu'on n'écoute pas d'habitude. La deuxième raison politique qui est importante, c'est que certaines applications auraient plus besoin d'IPv6 que les autres. Par exemple, si le seul modèle qu'on a de l'utilisation d'Internet, c'est de surfer sur le web, de regarder des pages web, et pour la grande majorité des décideurs, l'Internet ne sert que à ça. IPv4, c'est très bien. On met du NAT, on met des proxys, on met des trucs comme ça, qui sont peut-être pénibles à configurer pour l'ingénieur, difficiles à expliquer. Donc quand on fait des formations Internet, ce qui est mon cas, ça complique un peu, c'est moins joli que le modèle classique IP. Mais pour l'utilisateur final, ça ne se traduit par aucune perte de fonctionnalité. Quand on surfe sur le web via le NAT ou sans, avec une adresse IP global, routable, etc., ça ne fait aucune différence pour l'utilisateur. Par contre, certaines applications ne fonctionnent bien qu'en V6. Typiquement, toutes les applications de type peer-to-peer, où il y a, alors que ça sert pour l'échange de fichiers ou pour d'autres activités, c'est typiquement les applications où c'est utile d'avoir sur son bureau, sur sa machine à soi qu'on contrôle, une adresse globale, routable, etc. Alors là encore, ce n'est pas un argument très vendeur, parce que tout de suite, il y a des gens qui vont dire « Ah mais oui, mais c'est les pirates qui échangent des fichiers avec Casa, donc il ne faut surtout pas déployer IPv6 à cause d'eux. » Mais c'est le genre de choses que peut faire un opérateur, je dirais, de petite taille et engagé dans une logique non marchande, c'est qu'on peut travailler pour des applications qui pour l'instant actuellement n'existent pas tellement, enfin mon usage est très modéré, mais qui pourraient représenter l'Internet de demain, le web de demain, ça se trouve au sens de la grande application qui va être une justification suffisante pour utiliser IPv6. Inutile de dire qu'on n'y est pas encore. Donc, c'est ces deux points, je dirais, qui étaient la motivation principale, le manque d'adresse IP pour les gens qui sont arrivés récemment, et puis les limites techniques que posent des techniques comme le NAT dès qu'on fait autre chose que le modèle standard, c'est-à-dire surfer sur le web. Un peu de technique, parce que je pense que c'est ça qui intéresse le plus la plupart des gens ici. Le réseau interne de Jitoyen, donc tout fonctionne en Ethernet, hein, les LS sont exploités en Ethernet aussi, donc ça élimine pas mal de problèmes, puisque comme vous savez, tout fonctionne au-dessus d'Ethernet, alors que d'autres protocoles peuvent poser d'autres problèmes. Les logiciels sont tous en logiciel libre, c'est-à-dire que les PC sont des machines Unix, et pour faire de l'OSPF, du BGP et compagnie, on utilise Zebra. Les routeurs donc sont des PC, bon ça pourrait être autre chose que des PC, mais c'est tous des PC. Le protocole de routage interne, c'est OSPF, Et il y a deux fournisseurs de transit, Telia et Obovnet actuellement, qui connectent au reste du monde, plus connexion à trois points d'échange, Sphinx, FreeX et Prix. Donc ça, c'était la config de base de Gitoyen. Ce sur quoi a été construit IPv6. Vous savez que beaucoup d'opérateurs ont des problèmes à passer à IPv6, parce qu'ils ont une histoire plus longue, et des choix technologiques qui, à un moment, étaient raisonnables, mais qui, après, les coincent parce que, par exemple, ils utilisent tel protocole couche 2 pour lequel IPv6 ne fonctionne pas bien, des choses comme ça. Bon. Ça, c'est des problèmes qu'on n'avait pas, donc je dirais qu'on était chanceux. Pour des raisons qui n'ont rien à voir avec IPv6, on avait choisi des technologies qui, en pratique, marchaient bien avec IPv6. On a eu du mal. Quels sont les choix qu'on a eu faire au moment du passage à IPv6? Donc, les choix qui ont été faits, qui se posent à tous les opérateurs qui déploient IPv6, est-ce qu'on utilise le même réseau ou est-ce qu'on sépare VK-PV6 sur des réseaux séparés en utilisant des VLAN ou des trucs de genre? On a choisi de tout mettre sur le même réseau puisque IPv6 a été prévu pour ça. Il n'y a aucune raison que des paquets VK-PV6 ne puissent pas coexister sur le même Ethernet. Les VLAN entraînaient une complexité supplémentaire pour, à mon avis, aucun gain. Du point de vue de l'adressage, c'est les adresses qui ont été obtenues auprès du RIR. Vous savez que depuis le 1er juillet, les quatre RIR ont commencé à allouer des adresses IPv6 officielles à des conditions raisonnables. Avant, les conditions étaient délirantes, c'était à peu près impossible d'avoir des adresses IPv6. Enfin, c'était dingue, c'était plus difficile qu'en V4, ce qui est un paradoxe. Depuis le 1er juillet, ça a sauté, et vous pouvez avoir des 2001 ou quelque chose en très peu de temps et avec un minimum de formalité. Alors, surtout, chose extraordinaire, il n'y a plus de différence entre l'allocation et l'affectation maintenant. Avant, une fois que vous aviez votre stage 20 d'allouer, il fallait encore demander une affectation tant que votre fenêtre ne s'ouvre pas. Il fallait encore demander une affectation pour chaque client qui vous donnait une main 5 gratuite. En IPv6, c'est fini. Vous recevez votre stage 32 et après terminé, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Rien que ça, c'est déjà une motivation pour passer à IPv6. Donc, les adresses sont des adresses officielles du RIP. Gitoyen n'est jamais passé par les adresses Sysbone, qui pendant longtemps étaient la seule façon pour avoir des adresses globales en IPv6. On a aussi des adresses privées FEC0 qui ont servi pendant la phase expérimentale. Donc, l'IPv6 est en natif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tunnel interne. Ça aussi, c'est lié à la petite taille de l'opérateur. Si vous êtes un gros opérateur, vous ne pouvez pas migrer tous vos routeurs d'un coup. Donc, vous êtes obligé pendant un moment de maintenir un mélange de connectivité native et de tunnel en interne. Vu la taille du réseau, ça a été possible de tout passer en une semaine. Donc, il n'y a de l'IPv6 que natif à l'intérieur de Gitoyen. Pour le routage en interne, on a continué avec l'OSPF. Donc la version 3 d'OSPF est maintenant une version multiprotocole, même si en pratique elle n'est définie que pour V6. Coucou. Et n'est utilisée que pour V6. C'est la version d'OSPF la plus avancée, où il y a tout qui résout en plus quelques petits problèmes d'OSPF qui traînaient avant et qui est bien implémentée. Pour les connexions à l'extérieur, on essaye de privilégier les connexions natives. Vous savez qu'un des problèmes de l'Internet V6 actuellement, alors je ne dis pas le Sysbone, parce que la définition du Sysbone est floue. À une époque, c'était clair, l'Internet V6 et le Sysbone, c'était pareil. Aujourd'hui, qu'est-ce qui définit le Sysbone? Est-ce que c'est le fait d'utiliser des tunnels? Est-ce que c'est le fait d'utiliser des adresses 3FF, quelque chose? C'est pas très clair, donc je préfère parler de l'Internet V6 pour parler de tous les préfixes qui sont annoncés dans la table de routage globale. Ils doivent être 350, 360 à l'heure actuelle, quelque chose comme ça. Donc, un des problèmes de l'Internet V6 qu'on a actuellement, c'est une connectivité qui est extrêmement bizarre. Où pour aller de France à France, vous passez parfois par un tunnel avec une université en Thaïlande, et avec les délais associés. Il y a actuellement tout un mouvement au monde V6 qui est bien décrit dans le draft Savoya V6 Up 6 Bonne Messe, qui explique pourquoi il est important pour IPv6 de passer à une connectivité privilégiant les connexions natives. Par exemple, avec les partenaires aux Pays-Bas, maintenant la plupart de ceux qui sont connectés à AM6 n'acceptent plus que des peering V6 natifs passant par l'AM6. Ils refusent même maintenant de faire des tunnels. Donc, c'est ce qu'on a essayé de faire, mais évidemment, c'est pas si facile que ça. Alors, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché? Ben, à peu près tout a marché. J'ai pas vu de gros problèmes liés à ça. Le support OSPF V3 de Zebra est très bon. Il n'y a pas eu de problème particulier là-dessus. Plus exactement, on a eu la chance qu'on n'utilisait pas les options qui risquaient de planter. Pour BGP, il n'y en a pas eu trop non plus, donc on fait du BGP multiprotocole avec l'extérieur. Il y a eu quand même des problèmes, et c'est un petit peu pointu, mais je le dis au cas où ça arrive. Si vous avez des serveurs de route en IPv6, les serveurs de route BGP en IPv6 avec Zebra, ne mettez pas à jour les dernières versions de Zebra, ont fait un peu en l'air le code qui permettait de faire des AES transparents et des next-stop transparents sur Zebra en IPv6. Ça marche en V4, c'est cassé en V6. Je dirais que c'est un peu le plus gros problème qu'on a eu avec l'infrastructure qu'on utilisait. Tout le reste a fonctionné. Si on a aussi découvert des problèmes en essayant de pirer au Sphinx avec Renater, le Sphinx met l'IPv6 sur un VLAN séparé, donc il fallait reconvertir le routeur en VLAN, et en général ça marche, Linux a ce qu'il faut pour ça, sauf que les cartes Ethernet particulières qu'on utilisait, le pilote bêtement avait une limite en dur à 1500 octets, c'est bien qu'on ne pouvait pas utiliser le VLAN sur ces cartes Ethernet là. Ce qui est bon. Par ailleurs, c'est une mauvaise idée, je pense, de la part du Sphinx d'imposer un VLAN séparé, mais c'est le genre de problème qui se révèle que à l'essai, malheureusement. Surtout qu'en laboratoire, ça marchait bien, c'était pas les mêmes cartes Ethernet. Et ceux qui suivent l'actualité du monde Linux savent que c'est pas parce que ça marche avec un pilote Ethernet que ça marchera avec tous. Alors, le gros problème, par contre, à mon avis, un truc quand même, c'est quand même très pénible, c'est de trouver un fournisseur de transit. Alors, dans le monde V6, c'est à la fois très simple et très compliqué. C'est très simple. Parce que vous demandez sur la liste du Sysbone, vous regardez sur le serveur du Sysbone, et vous trouvez 50 types qui sont prêts à ouvrir un tunnel avec vous, depuis le fin fond de l'Arkansas ou du Brésil, et à vous envoyer la totalité de la table de routage V6, et à donc servir de fournisseur de transit gratuit. Chose qui n'est pas possible en V4. C'est bien dommage, dans le monde cruel où nous vivons, on ne peut pas avoir ça, mais en V6 on peut. Donc a priori, il n'y a pas de problème. Je veux dire, qu'est-ce qu'ils veulent dire là ? Trouver un fournisseur de transit en V6, c'est très facile. Là où ça devient vraiment difficile, c'est quand on veut l'obtenir aux mêmes conditions qu'en V4. C'est-à-dire, si on veut obtenir des conditions commerciales et en termes de minimum de garantie de service, bah pour l'instant, à ma connaissance en Europe, il n'y a qu'un seul fournisseur qui fait ça aux conditions commerciales, c'est NTT Europe, qui a annoncé ça il y a 3 jours, je crois. Je trouve que c'est hors de prix. Mais ça, tu as regardé les prix, Frédéric ? Ça m'a semblé hors de prix. Mais c'est le seul fournisseur, à ma connaissance, qui, en France, peut vous vendre aujourd'hui du PV6 à des conditions commerciales habituelles. C'est-à-dire que ça marche. Si ça ne marche pas, on appelle le NOC et on les engueule et ça remarche. Et ce genre de choses. Autrement, ce qui existe pour l'instant en V6, c'est des relations avec des gens sympas, avec des copains, qui acceptent de vous ouvrir un tunnel sans garantie. Et ça marche. Quand ça marche, tant mieux. Quand ça ne marche pas, tant pis. Donc c'est un tel système a entraîné des conséquences, c'est que comme on ne peut pas obtenir un fournisseur de transit V6 à des conditions commerciales, on ne peut pas le répercuter soi-même sur ses propres clients. Par exemple, on ne pourrait pas aujourd'hui vendre de l'IPv6, honnêtement, puisque tout simplement, on ne peut pas vendre un produit sur lequel on n'a aucune garantie à l'origine. Et l'autre problème aussi, c'est qu'on ne peut pas facilement passer des services en IPv6, parce que comme la connectivité en Internet V6 est plus mauvaise, en général, en pratique, ça va beaucoup moins vite en V6. C'est-à-dire, si vous prenez une machine A et une machine B dans l'Internet, vous êtes quasiment certain que dans tous les cas, elles se joindront plus lentement en V6 qu'en V4. Tout simplement parce qu'en V4, simplement parce qu'en V6, vous passerez par des tunnels plus ou moins contrôlés, des endroits plus ou moins bizarres, ce qui fait que vous ne pouvez pas passer vos services directement comme ça. Il y a eu une discussion l'autre jour sur la liste du Sysbone, je crois, sur pourquoi Google n'est pas accessible en V6. Compte tenu de la énorme visibilité de Google, ça boosterait beaucoup le déploiement d'IPv6 si Google faisait ça. Le problème, c'est que d'abord, il faudrait que Google achète sa connectivité quelque part, et aux États-Unis comme en Europe, il n'y a pas énormément de fournisseurs qui font ça. Et en fait, s'ils le faisaient, leurs malheureux clients qui ont IPv6 et qui ont un navigateur V6, eh bien, ils verraient des débits plus faibles, des taux de perte plus élevés, des latences plus importantes. Tant que ce problème-là n'est pas résolu, et ça, sa résolution dépend des opérateurs, de nous, ça va être difficile de demander aux gens de passer leur réseau en IPv6. Donc actuellement, qu'est-ce qu'on a ? On a un tunnel avec Telia. Telia est un fournisseur de transit, mais l'offre de Telia n'est pas une offre commerciale. C'est sans garantie, si ça marche, c'est super. Donc le tunnel est à l'intérieur du réseau de Telia, ce qui garantit, que ça va relativement vite et que c'est relativement prédictible. Et puis d'autre part, on a un peering transit avec Nerim, c'est-à-dire peering sur l'infrastructure du Sphinx et transit dans la mesure où Nerim envoie la totalité des 300 et quelques routes d'Internet V6. Il y a aussi quelques connexions tunneloïdes plus ou moins planquées avec en général des AS prepend dessus pour décourager leur utilisation. Pour l'instant, donc, c'est pas facile d'obtenir un maillage plus élevé que ça. Ça a l'avantage d'être gratuit, c'est super, on peut dire merci à Nerim. mais ça n'est pas quelque chose sur lequel on peut bâtir une infrastructure à des conditions professionnelles. Un petit mot sur les points d'échange, parce que Jitoyen gère un point d'échange qui s'appelle le Plix, qui est actuellement un POP à TV House 2. Le Plix a aussi été passé en IPv6. Donc, rien d'extraordinaire, on peut faire de l'IPv6 dessus. Il y a des adresses IPv6 qui sont distribuées aux clients et le root server fonctionne en V6. C'est là que j'ai constaté que dans la dernière version de Zebra, ça ne marche plus. Donc, il faut penser à ne pas mettre à jour le logiciel de root server, hein, sinon on flanque en l'air tout ça. Donc, rien d'extraordinaire. Pour le réseau interne de Jitoyen, le Plix utilise le même Ethernet pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des VLAN séparés comme c'est le cas au Sphinx. Hein. Vous savez que des points d'échange actuellement en région parisienne, donc le Sphinx va être celui qui a le plus de gens en IPv6. Mais à cause de ce problème de VLAN, il y a en fait un partitionnement au Sphinx. Il y a deux catégories, ceux qui passent sur le VLAN par défaut et ceux qui passent sur le VLAN spécial IPv6. Ça c'est une mauvaise idée. Les autres gros points d'échange que je connais, comme AMSIX par exemple, n'utilisent pas un VLAN séparé. Ça c'est un sujet qui a été discuté à la dernière réunion des utilisateurs de Sphinx, mais apparemment Red Hat n'est pas très ouvert. Oui.
J'ai dit qu'il y avait un VLAN, j'ai demandé à lui si
j'ai des avis. Ça c'est de la concertation comme j'aime, ça fait pas perdre de temps. Voilà. Donc voilà, l'état actuel du réseau, ça fonctionne. Pas vraiment de choses extraordinaires là-dedans. Tiens. Là, le réseau fonctionne, mais bon. Là, c'est l'autre bouton ? J'ai cliqué sur le mauvais ? Oups, est-ce bête ? Voilà. Donc l'épine dorsale de Jitoyen est entièrement en IPv6 natif depuis 4 mois, ce qui permet d'avoir un petit peu de recul. Je dirais que la principale leçon que j'en ai tirée, c'est d'abord, alors on ne fait pas de statistiques séparées pour V6, donc je ne peux pas vous présenter des jolis graphes. Quand je fais des sondages, c'est-à-dire en gros un coup de TCP dump de temps en temps, je vois que le trafic IPv6 c'est de l'ESPF et puis de temps en temps de l'ICMP. Le pire, quand la partie IPv6 tombe en panne, et simplement est reconfigurée, personne ne se plaint. Alors que quand la partie V4 tombe en panne, le téléphone chauffe immédiatement. Quand la partie V6 tombe en panne, personne ne s'en aperçoit. En fait, s'il n'y avait pas Mou qui envoie des pings de temps en temps pour vérifier que la connectivité marche bien, on ne s'en apercevrait même pas du tout. J'ai constaté ça dans d'autres établissements. Quand la connectivité, le meilleur résumé de l'état actuel d'IPv6, c'est quand la connectivité IPv6 tombe, on est beaucoup plus longtemps à s'en apercevoir. Et là, alors que V4 pour l'instant pour la plupart des clients est tellement vital qu'ils s'en aperçoivent immédiatement quand il y a un problème. Bon, ceci dit, maintenant que c'est monitoré automatiquement, donc je peux dire que ça ne tombe pas en panne, ça marche, bon, ce n'est pas tellement extraordinaire. J'avais un peu d'inquiétude pour OSPF V6, je me disais que ça devait être moins utilisé, donc potentiellement il y avait plus de bugs ou surprises. Pour l'instant pas eu trop de problèmes, pas eu trop de problèmes non plus avec BGP en multiprotocole. En tout cas, pas avec les pairs avec qui on échange. Il y a eu beaucoup de malheurs au début avec TIA parce que leur image d'iOS utilisée à l'autre bout du tunnel avait comportement surprenant. Mais apparemment, ça semble résolu depuis. Donc, on peut dire qu'une partie de l'infrastructure de base en V6 fonctionne, mais que c'est pas encore au stade où c'est pas encore beaucoup utilisé. Bien sûr, on pourrait artificiellement créer du trafic IPv6, c'est pas en trouvant un fil de news V6 ou un truc comme ça, on pourrait à ce moment-là dire qu'on a un trafic V6 énorme sur le réseau. Mais on constate qu'en l'absence d'opérations volontaristes comme ça, le trafic IPv6, je dirais naturel, est extrêmement faible pour l'instant. Et c'est ce que j'avais dit tout à l'heure, aucun des clients directs ou indirects des Jitoyens n'est venu nous voir en disant comment ça se fait, vous n'avez pas encore IPv6. La motivation venait vraiment de l'intérieur de l'opérateur. Voilà, est-ce que vous avez des questions, des remarques, des critiques? J'en ai pas constaté. Il y en a peut-être que je n'ai pas vu, mais j'en ai pas constaté.
Nous, on avait testé le message 38 que vous avez vu dans le page, alors c'est le passage 64 que vous avez
vu. Ce genre de choses. Je ne l'ai pas vu, et ça, j'ai regardé. Je regarde moi maintenant, mais au début, au cours de déploiement, je regardais ça, et je n'ai pas vu apparaître ce genre de phénomène. Il n'y a pas de lien point à point, déjà, donc ça supprime une partie des surprises de l'ECF. Je regarderai plus attentivement, mais je ne me souviens pas de remarquer.
Alors, vous avez le préfixe en slash 64 en SF,
plus une mail pour
plus de l'adresse de base en slash 128.
Pas de très bien. Non, je n'ai pas.
Ça faisait, ouais, ça faisait pas mal de problèmes. Plus des routes et des paramètres du coup.
Alors, ça par contre, ça, bon, le coup du slash 128, je ne pourrais pas jurer que ça n'est pas arrivé. C'est arrivé sans qu'on s'aperçoive. Les routes pas annoncées du tout, pour l'instant, il n'y a pas de problème. Maintenant que c'est monitoré, en plus, je peux dire que ça reste bien annoncé. Donc ça semble fonctionner. Après, de ce que j'ai vu sur les listes, comme les discussions des droits, c'est qu'il y a des trucs qui ne marchent pas pour les fonctions plus sophistiquées qu'on n'utilise pas. Notamment, dans la liaison France, c'est souvent un cauchemar en ESPF. C'est plus simple en ESPF V3, mais apparemment, ça fait encore quelques histoires. Donc non, on a peut-être eu de la chance, mais non, je n'ai pas constaté, c'est bien le problème. Pour l'instant, le réseau, c'est aussi lié à sa petite taille, est très homogène, ce qui facilite les choses. Un réseau mixte, il y aurait, je ne sais pas, des Cisco, des Juniper, des FreeBSD avec 2D et des Linux avec des bras, on aurait peut-être des problèmes plus intéressants.
Vous n'avez pas eu des problèmes sur Linux avec des Netflix?
Non, pas. Ça, on n'a jamais eu. Ce qu'on a eu de plus embêtant, mais c'est purement V4, c'est un V6, ce qu'on a eu de plus embêtant, c'est que quand Zebra plante salement, pour tout un tas de raisons, il nettoie pas les tables de routage et au redémarrage de Zebra, les routes sont restées dans le noyau. Pour tout un tas de raisons subtiles, apparemment c'est pas facile de les éliminer. Donc quand Zebra redémarre, il croit que c'est des routes noyaux, donc il n'y touche pas. Et donc si après il apprend en BGP ou en SPF une meilleure route, il n'y installe pas. Donc on a eu ce problème. Ce qu'on a mis en place, c'est simplement c'est vraiment bourrin. Hein. C'est un script qui note toutes les routes noyaux qui ne sont pas internes à Citroën, qui ne devraient pas exister, qui les vire. Et depuis que le script est là, le problème c'est plus produit, ce qui est quand même agaçant. Bon, mais il a dû disparaître à l'occasion d'une mise à jour quelque part. Le problème, autrement, je là avec ma fille, non, je ne me souviens pas.
C'est pas mal de machines modèles qui se prennent, notamment qui a un nombre de pointeurs qui va pouvoir venir en 2.2 pour avoir un nombre de pointeurs.
Alors, toutes les bécanes, tous les routeurs agitoyens sont en 2.4 depuis le début. Hein. Dès qu'on a commencé, il n'y a pas très longtemps, dès qu'on a commencé, c'était le 2.4. Ça, je n'ai pas vu ce genre de truc. Bon, le problème des routes fantômes, les routes où Zebra crash, quand il revient, ils sont toujours là. Ça, c'est vraiment bouffant. Ça, c'est le problème le plus embêtant. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait être spécifique à Debian, étant donné que Zebra et Linux sont les mêmes que les autres.
J'ai fait plusieurs tests, donc avec exactement le même kernel binaire, il y a que sous Debian qui réussit à avoir le problème. Sur la date, ça ne me répondait pas.
Non, je ne l'ai pas constaté. De toute façon, ça se voit dans les durées de vie des sessions BGP. On a surtout depuis plusieurs mois, donc s'il y avait eu des manières de se voir, ça se serait vu. Mais bon, c'est aussi lié à ce genre de choses, c'est aussi lié à la complexité du réseau. Hein. Plus le réseau est complexe, plus il y a de choses, et plus on a des surprises. Le routeur le plus actif, il a une connexion IBGP avec un copain, une connexion EBGP avec la BevNet, et deux BGP, et non, et beaucoup de BGP avec les pairs Flix et Flix. Et lui n'a pas manifesté de problème. Paradoxalement, c'est l'autre qu'on a eu le plus. Mais bon, c'est des problèmes difficiles à cerner parce que ça arrive une fois de temps en temps, ça se produisait dans certains cas. Ça semblait pas être lié avec le Netlink, ça semblait être lié au fait que bah, simplement, il n'y a apparemment pas de moyen dans Linux, semble-t-il, d'installer des routes qui disparaissent automatiquement quand Zebra plante. Comme Unix ferme ses fichiers automatiquement quand un processus plante, apparemment il n'y a pas moyen d'installer des routes qui disparaissent automatiquement quand Zebra plante. C'est à Zebra lui-même de nettoyer. Donc si on fait un petit moins neuf, par exemple, on est embêté. Donc ça, c'est le problème le plus embêtant que j'ai trouvé en BGP. Mais qui n'affectait que V4. Bon, en V6, le problème, c'est aussi un autre problème de V6, c'est qu'en V4, on s'en a aperçu que parce qu'il y avait. Donc la route, le routage avait changé. Sur un des routeurs, il y avait la route fantôme, pas sur l'autre, donc ping-pong entre les deux. Donc là, les clients le détectent, ou les utilisateurs le détectent et râlent. En V6, le problème, c'est que si on avait des choses comme ça, ça risquerait de passer inaperçu pendant un certain temps.
Vous avez parlé du nombre de sessions BGP. J'ai fait des tests personnels, 40 sessions BGP hypothétiques, on ne va pas en
trouver. IPv6, j'ai jamais essayé. En IPv4, on a largement dépassé ça, mais en IPv6, j'ai pas essayé encore. De toute façon, je ne comprends pas bien, parce que en additionnant le Sphinx, le Quix et une épirine privée, ça paraît. Je veux dire, en comptant le nombre de gens qui au Sphinx ou au Quix sont prêts à faire de l'IPv6 plus quelques connexions de transit, pour en atteindre 40, pour l'instant, c'est difficile. Donc je crois que le problème est encore un peu loin et il est lié au déploiement du IPv6.
Pourquoi ce choix de Linux au départ, c'est un peu hors sujet, l'architecture citoyenne, c'est mon Linux.
Pour moi, la motivation principale, en fait, elle était.
Parce que Linux, c'est pas top pour l'otage, on pourrait parler par les OS, DL.
Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que. Non, mais là, bon, là c'est un beau sujet de fou, mais je sais que ce truc est répété souvent. Je sais que c'est souvent répété, mais c'est pas aussi répété beaucoup que c'est vrai. Pour vous donner un exemple, par exemple, comme quoi le routage en BSD avait des faux, cette expérience suivante, que je pense être très rigolote, vous ajoutez à la main une route vers une adresse de la machine, une route qui pointe vers un routeur extérieur. Et bien sur BSD, il envoie fidèlement le paquet à l'extérieur. Sur Linux, il détecte qu'il y a bouclage et il n'envoie pas la route à l'extérieur. Ce genre de choses a une importance en OSPF. Quand vous avez des maisons point à point en OSPF, vous avez des routes vers le routeur, mais passant par une autre routeur qui sont installées. Et bien BSD les suit aveuglément. Vous êtes obligé dans la config de Zebra de rajouter un IP route vers la loopback pour éviter que ça se produise. Donc quand après on dit que BSD c'est plus sérieux que son routage, je ne suis pas convaincu.
Ah
non,
c'est plus sérieux, mais déjà il y a plus de fonctions de routage.
Lesquelles?
Notamment,
bah, le portail
VM, c'est beaucoup plus puissant que c'est Linux. Alors, d'où vous avez évoqué le problème avec
VMD. Mais c'est pas un nombre de fonctions, c'est les pilotes Ethernet qui sont bonnes. Ouais, il y en a beaucoup qui ont cette bonne sous Linux, mais c'est pas lié au VLAN. Les fonctions, d'une manière générale, sur le réseau du foyer, on utilise peu de fonctions avancées. Bon, par exemple, pour les VLAN, quand on avait tenté pour le Sphinx, on utilise uniquement l'affectation, une affectation vraiment bêtement statique. C'est-à-dire, on n'essaye pas des trucs rigolos, de genre mettre automatiquement les 4 et les 6 sur des VLAN différents. Sur un réseau d'opérateurs en production, c'est, je crois, une bonne attitude. D'une manière générale, autant en labo, on essaye de pousser les logiciels à fond pour découvrir des bugs, découvrir des problèmes, apprendre des choses rigolotes, autant en production, on se limite au contraire en général à un petit nombre de fonctions très maîtrisées que beaucoup de gens utilisent, donc ont des chances de ne pas être bloqués. Donc c'est de toute façon, je pense, une bonne pratique de gestion de réseau. Pour les VLAN, par exemple, donc ce qu'il y avait dans Linux, de toute façon, nous aurait suffi. On a dû faire marche arrière pour un problème qui n'est pas lié au code VLAN, qui est lié au pilote des cartes Ethernet, puisque ça marche avec certaines cartes et pas avec d'autres. Mais c'est pas un manque de fonctions là-dessus. En fait, la motivation principale, elle était indirecte, parce que c'est pas tellement le noyau qui m'intéressait, surtout que le noyau Linux en V6 a des problèmes dont certains ont été résolus très récemment. Par exemple, une galaxie classique, quand vous avez une route par défaut dans le routeur arrête de router. C'est une bug qui n'a été corrigée que dans le noyau 2.4.20. Il peut encore émettre des paquets n'importe où, mais il ne peut plus router. Dès qu'il y a une route par défaut. Donc, d'où le truc qu'on trouve souvent dans les docs Linux de mettre une route pour 2053. La motivation principale est plutôt l'administration système des machines. C'est beaucoup plus facile avec Debian. Surtout à distance, surtout quand il y a plusieurs personnes qui travaillent sur la même machine. Il y a un Debian BSD, mais qui est ultra expérimental, que vous allez utiliser après en production. Donc, c'était plutôt le choix de Debian d'abord et donc de Linux.
Et au niveau de cette situation, on va passer en fait à cette présentation. C'était juste une dernière question pour l'IPv6 avec Gandhi. Est-ce que Gandhi prévoit de faire l'IPv6 sur ses serveurs VLAN?
Alors je ne suis plus du tout impliqué dans Gandhi, donc il faudrait leur demander à eux. Mais c'est prévu. Dans la mesure où, quand j'avais dit qu'il n'y avait aucune demande d'aucun client, ça n'est pas tout à fait vrai parce que Gandhi était justement intéressé. Mais à ma connaissance, il n'y a aucun engagement ferme. C'est un truc pour études. Il faut voir que la grosse activité de Gandhi, c'est d'enregistrer dans comnet.org, et de toute façon, on ne peut pas mettre de Blue Record V6 dans comnet.org. Donc ça limite beaucoup d'intérêt.